Bonjour et bienvenue au show Radio Minter Dialogue, émission numéro 74. Cet entretien est avec Éric Maillard, directeur général des relations publiques pour Ogilvy France, un homme du net qui walk the talk, comme j'aime le dire. Éric a travaillé avec bien des grandes marques et des entreprises. On y discute de la clarification des rôles entre la communication, le marketing et les RP, l'enjeu de la transformation digitale et du branding personnel en entreprise. Des sujets sensibles et importants pour les marques d'aujourd'hui. Bonne écoute. Allô, bonjour et bienvenue sur l'émission radio téléchargeable Minter Dialogue, où on parle des marques, de l'internet et les nouvelles technologies. Je suis Minter Dial, votre compère pour cette émission radio téléchargeable, autrement dit un podcast. Je suis auteur du blog minterdial.fr, où vous trouverez les show notes pour l'entretien qui suit, avec l'ensemble des sites et des liens cités dans l'émission. Si vous lisez anglais, j'ai également mon blog en anglais, themindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T. Plongeons alors dans cette nouvelle émission de Minter Dialogue. Bonjour et bienvenue au show radio Minter Dialogue. Aujourd'hui, je suis avec quelqu'un que j'ai rencontré en fait en Google Hangout, un peu inouï, avec Rémi Flamelin. Je ne sais pas comment dire ça, mais... il s'appelle Éric Maillard. Alors, Éric, peux-tu te présenter, s'il te plaît? Qui es-tu et ce que tu fais?
Bonjour, Minter. Alors, c'est vrai que je ne me souvenais plus qu'on s'était rencontré en Hangout. Tu as raison. Alors, je suis Éric Maillard. Je dirige Ogilvy PR, une agence du groupe Ogilvy. Et je suis sur Internet depuis quelques années en France avec blog, Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest, un partout. Voilà, on donnera quelques liens à la fin.
Ça, c'est sûr. Mais c'est un homme du net. Ça, on ne peut pas l'échapper. Donc, avec PR Land, ton blog et ton Twitter. Quand tu dis que tu es sur PR, ton rôle est worldwide. Explique-nous un peu plus ce que ça veut dire en fait.
Alors, être sur les RP, le principal de mon rôle est sur la France et ça m'intéresse de réfléchir à ce sujet-là sur la France, parfois étendue à l'Europe, mais on est dans une organisation mondiale, mais je le fais vraiment intéresser sur la France. Alors les RP, c'est assez simple en fait, c'est le même rôle depuis toujours. Alors toujours, c'est 150 ans à peu près depuis qu'il y a des médias très organisés. C'est de passer par des sphères d'influence pour faire passer les messages. Donc une sphère d'influence, ça veut dire que c'est quelqu'un qu'on ne va pas payer, c'est une tierce partie, c'est une organisation ou une personne qu'on ne paye pas, mais qui va être convaincue de votre sujet ou de vos centres d'intérêt et qui va les porter naturellement comme un ambassadeur. Et quand on arrive à faire ça, on fait des bonnes RP et ça part d'un principe un peu simple qui différencie clairement de la publicité, qui est de dire je suis beaucoup plus puissant si on dit du bien de moi, plutôt que si moi-même je vous dis du bien de moi. Si je vous dis je suis le meilleur RP du monde, vous allez dire il est gentil, mais il est un peu vantard. Alors que si 10 personnes à côté viennent dire alors lui là, c'est vraiment le meilleur, c'est la crème de la crème, ça commence à avoir un impact plus fort. Donc c'est ça que j'essaie de faire.
Alors le RP aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui pense en tout cas que le monde a changé au niveau des RP et tout le monde est en train de passer par cette transformation, passer par l'internet. Et les rôles de communication sont multiples dans une organisation. Il y a le marketing qui a ses messages à passer, et je ne parle pas de corporate, mais il y a aussi la communication. Ensuite, il y a l'RP. Et tout ça, tout le monde se sent un peu bouleversé. Comment est-ce que toi, tu définis les rôles des uns et des autres pour qu'il y ait une espèce de clarté, pour qu'on ne trébuche pas les uns sur les autres?
Alors, c'est vrai que la montée en puissance du digital et du social comme impact des lignes de démarcation qui sont un peu floues, c'est-à-dire finalement plus personne, surtout tout le monde a l'impression que on est sur des mêmes territoires et qu'il y a plus vraiment de différence entre les métiers. Moi, je crois exactement à l'inverse de ça. Je crois que ça ramène aux fondamentaux de chacun des métiers qui ont chacun leur vocation. Sur les RP, je l'ai dit, c'est plutôt l'influence. Quand on est en direction marketing, on va s'intéresser à ses cibles. D'un point de vue commercial et d'un point de vue image d'ailleurs, ça intègre la communication. Quand on est directeur commercial, on va évidemment être sur ce qu'on appelait avant le trade marketing, le terrain. Enfin, on a chacun nos enjeux, nos propres cibles. Après, oui, quand on dit digital, tout le monde se dit, eh ben voilà, il faut que j'aille sur Internet, créer le buzz et faire parler de moi, et que je fasse de la pub, du CRM, de DRP ou du marketing direct. Je vais utiliser exactement les mêmes moyens, les mêmes canaux. Moi, je ne crois pas. Je crois pas que ça marche comme ça. Je ne crois pas que ce soit la réalité. Sur le trade marketing, il y a le social shopper aujourd'hui qui existe. Sur les RP, on a des approches social media très spécifiques. Sur la publicité, oui, elle intègre une dimension sociale aujourd'hui, mais ça reste une démarche publicitaire. Donc, tous les métiers sont quand même très dans leur cadre d'origine, qui ramène quasiment au livre du marketeur ou de, pour ce qui me concerne, David Ogilvy, qui m'expliquait qui m'explique ça dans ses bouquins qui ont été écrits il y a 40 ans, quand même.
Alors, je te suis et j'ai envie de dire quand même que du point de vue de l'influenceur ou le consommateur et ou d'autres audiences, souvent ils vont se retrouver sur le même endroit, qui est en l'occurrence une page Facebook ou autre chose. Donc la complication en entreprise, c'est que, alors quand bien même on a une cible définie, on est sur une plateforme qui est souvent un peu en mixte. Alors comment est-ce qu'on s'en sort avec ça, à ton avis?
Alors, ça oblige à une chose qui est absolument terrible, c'est qu'on n'a plus le droit de travailler en silo dans les organisations. Alors, j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'on est tous d'accord là-dessus et que ça fait à peu près 10 ans que j'entends ça dans toutes les conférences, partout dans le monde. Tout le monde, avec évidemment la salle qui hoche de la tête en disant oui, bien sûr, évidemment, nous n'avons plus le droit de travailler en silo. Donc c'est bien qu'il y ait un consensus. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'y est pas du tout dans les organisations qui sont encore en silo. Alors c'est vrai dans les entreprises, c'est vrai aussi dans les agences, hein, dans une certaine mesure. Il faut que les agences fassent également leur
Tout à
révolution
fait.
d'intégration. Il faut que les gens travaillent ensemble pour pouvoir gérer des espaces qui, comme tu le dis très justement, sont des espaces de mixité. On va réunir des clients, des influenceurs, des décideurs, de l'interne. Tous ces gens-là sont ensemble sur une même plateforme. Il faut qu'on y ait une approche cohérente qui fonctionne pour tout le monde, qui soit réfléchie tous ensemble, sinon ça crée des mauvaises surprises. Et on en voit à peu près tous les jours des mauvaises surprises. Donc, ouais, sortir des silos, ça devient une urgence et il faut arrêter de hocher de la tête et il faut passer à l'action.
Alors, si on va parler de l'action, comment est-ce qu'on s'y prend? Parce que intellectuellement, j'ai l'impression qu'on a tous compris, mais la réalité, c'est que en tout cas en France, pour ce qui est mon point de vue, c'est qu'on est fabriqué pour travailler en silo. C'est-à-dire, dès l'éducation, on a une carrière qui est un rail très spécifique. On est noté sur ses propres notes. On n'est pas configuré pour travailler en équipe. Parce que c'est comme ça que l'éducation est faite, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'emphase sur le sport collectif, etc. Et on sort, et puis on va à l'entreprise, et puis je dépends de quelqu'un, donc il y a l'hiérarchie. Comment est-ce que, à ton avis, on peut arriver à, en tout cas, améliorer cette approche?
Alors, je dirais pas que le travail en silo est forcément l'équivalent d'un travail un peu solitaire ou contraire au travail en équipe. Le silo peut tout à fait aller dans le sens d'un travail en équipe très fort avec voilà des équipes qui sont les unes à côté des autres. Par contre, les passerelles ne vont pas exister entre ces
C'est
équipes.
ça le problème.
Et ça, c'est vraiment un problème qui existe. Le point principal, c'est que c'est du travail de passer d'une organisation à une autre. Ça ne peut pas être un principe culturel qui est présenté une fois par an, en se disant que ce principe culturel va donc naturellement irriguer toute l'organisation et faire en sorte que chacun soit dans un travail collectif partagé et qu'on puisse mettre plusieurs organisations autour de la table sans aucun problème. Donc, du travail, ça veut dire qu'il faut que ça réponde à une stratégie. Je pense que c'est l'un des rares cas, cet enjeu du silo, où on doit être dans une approche absolument top-down. Le digital a fait en sorte que on quitte ce top-down pour aller vers un équilibre de remontée, d'échange, auquel je crois évidemment. Quand il s'agit de sortir d'organisation en silo, il faut qu'il y ait une impulsion très forte qui vienne du haut et qui demande un alignement. Une fois que cette impulsion très forte est arrivée, il faut l'organiser. Mais c'est du management. Alors les Français ne sont pas forcément les meilleurs au monde sur les enjeux de management. Là, ça vient s'impacter un peu fort. Pour le coup, tu as sans doute un meilleur regard international que moi, mais je n'ai pas le sentiment qu'on ait tellement de retard que ça sur la sortie du silo en France versus les États-Unis. En Asie, qu'on connaît bien chez Ogilvy, c'est un peu différent. Il y a des avancées qui sont un peu plus fortes et on peut y apprendre beaucoup de choses. Mais je crois en tout cas que ça doit répondre à une volonté très structurée, très organisée, avec des responsables du projet, des gens qui ont des objectifs et qui doivent faire en sorte de faire évoluer l'organisation d'un point A à un point B, comme on le ferait pour n'importe quel projet. Il y a peu d'organisations, ça existe aujourd'hui.
Ce qui me fait penser, en fait, ce que tu avais dit au tout début, c'est que tu as dit ça prend du travail, donc ça prend du temps. Et comme le temps est limité de façon générale, ça veut dire dans ta stratégie, ce que tu ne vas plus faire pour te donner le temps pour ce qui est important. Et je pense que là, pour moi, est la clé. Au lieu de dire, bah, c'est comme d'habitude, sauf qu'on rajoute ce temps de travail qui est plus élaboré, plus compliqué, on ne se connaît pas, on a des méfiances, il faut traverser ces pas qui nous mettent en silo. Et donc, il faut juste aussi se dire ce qu'on va arrêter de faire pour qu'on se donne le temps.
Ouais, absolument, ou créer un projet spécifique avec peut-être des budgets, des gens, des postes, des organisations pour prendre cette mission. Nous, on l'a fait pour un grand opérateur téléphonique au niveau mondial il y a 5 ans. Quand on dit prendre du temps, en l'occurrence, le changement d'organisation a été piloté en 3 mois, ce qui est très peu de temps. Mais il y avait une vraie volonté qui venait d'en haut, un budget qui fait que ils se sont payés une agence comme Ogilvy pour le piloter, le mettre en œuvre, des roadshows partout dans le monde pour présenter la structure, les évolutions, sachant que c'était vraiment l'intégration du social dans l'organisation. Donc comment on a mis autour de la table non seulement évidemment la communication, le marketing, mais également le juridique, les RH, les call centers qui sont absolument clés. Enfin, on a mis toutes les organisations ensemble, on a réfléchi à l'évolution. Un mois de travail, ça ne demande pas plus pour réfléchir ensemble à ce niveau-là. Et puis ensuite, 2 mois pour... le roadshow qui fait qu'on va faire descendre les outils, qu'on va train the trainer, c'est-à-dire dans chaque organisation, faire en sorte que chacun puisse expliquer où il est, pourquoi on avance dans une direction ou dans une autre. Donc oui, c'est du temps, mais dans le sens énergie. C'est pas forcément 2 ans de travail. Ça peut se faire en 3 mois, mais c'était une équipe d'une quinzaine de personnes pendant 3 mois.
Ce que je sens, enfin je retiens de ce que tu dis, enfin, l'impulsion d'en haut en bas. Et que ce que dans ma expérience, l'important c'est que c'est pas simplement une impulsion, mais c'est un comportement qui vient d'en haut. Et donc ça doit montrer l'exemple. Le deuxième point que tu m'as dit, ça me fait penser dans la manière d'y arriver, c'est d'avoir un projet spécifique également. Donc dans le pire des cas, c'est une crise qui ramène tout le monde ensemble, mais en réfléchissant proactivement pour éviter la crise. Avoir un projet d'entreprise, très bien, mais encore plus précisément, travailler ensemble sur un projet particulier. Parce que c'est pragmatique, on y arrive. Et comme ça, on amorce sur quelque chose de concret. On n'est pas en train de se raconter, tiens, Eric, il faudrait qu'on travaille ensemble. Ok, mais sur quoi ? Etc. Voilà,
t'as raison là-dessus, sachant qu'il y a une idée reçue qui est que la crise fait avancer le digital. Parce que voilà, sous la contrainte, on est obligé de faire avancer. Alors c'est un peu vrai, on peut pas nier ça. Je crois que la crise quand même ne crée pas des bons souvenirs en commun. C'est-à-dire, ça ne crée pas ces moments où on a tous connu, voilà, dans notre vie de tous les jours, on sait que les moments de galère vécus ensemble, parfois, ça peut générer de l'énergie positive. Dans l'entreprise, ça laisse rarement des traces qui donnent envie de recréer ça dans le même format. Donc tu as absolument raison quand tu dis qu'il faut créer le projet positif de construction et non pas le projet défensif qui va consister à imaginer tous les scénarios de crise digitaux, de crise digitale, pardon, en français, parce que ça crée pas de l'envie de travailler ensemble. Et oui, culturellement, il faut avoir envie de travailler ensemble pour que ça marche. Tous les outils du monde ne remplaceront pas ça.
Alors, je voulais revenir sur un peu ton passé, Eric, parce que je sais que dans ton passé, tu as travaillé chez Eastman Kodak. On en connaît encore. Alors, bon, on connaît un peu l'histoire malheureuse de Kodak. Ton expérience là-dedans, ayant vu de l'intérieur et de l'extérieur après, qu'est-ce que ça t'a apporté aujourd'hui dans ta manière et qu'est-ce que tu traînes comme bagage avec ça?
Alors, ça m'a apporté au moins une chose que, pour être très franc, je continue à constater sans avoir forcément toutes les clés pour que ça change. Quand j'étais chez Kodak, donc j'étais de 93 à 99, Il s'est passé plein de choses pendant cette période-là. C'était, on va dire, la fin de l'argentique, le début du numérique.
Oui.
Il se trouve que j'ai lancé chez Kodak le premier appareil photo numérique. C'est Kodak qui l'a inventé.
C'est fou.
Qui était un gros appareil
Oui.
photo numérique avec une grosse batterie derrière qu'on trimballait. Enfin, voilà, mais c'était donc en 93, 94. Et puis, j'ai lancé les premiers appareils photo. Le premier s'appelait le DC20. C'était un appareil photo grand public. Donc là, petit format comme on
Oui.
connaît aujourd'hui. Or, Kodak était dans un business model où beaucoup d'argent était rapporté par la pellicule traditionnelle. Et là, on essaie de tirer le fil aussi longtemps que possible pour
Pour
essayer
amener.
de vraiment presser le citron, comme on dirait en français, jusqu'au bout. Je me souviens qu'en 1996, on a lancé un format qui s'appelait l'APS, que tout le monde a oublié, et
Moi,
c'est
je me
très bien comme
souviens.
ça. Bon, alors, Milton s'en souvient, mais nous sommes deux. Voilà. Donc, l'APS, c'était format argentique, donc pellicule, qui permettait de faire trois formats de photos.
Oui.
Les pellicules s'inséraient très facilement. Ça a été très exactement la paire de Kodak. C'est-à-dire essayer ces 2 années de 96 à 98 où Kodak a essayé de tirer le fil jusqu'au bout en prétextant une innovation majeure sur l'argentique alors que le digital était là et que c'était évidemment la vraie révolution. Kodak a accepté de porter, alors que tous les acteurs de la photographie de l'époque, les Canon, Fuji, enfin tout le monde y était. Kodak était très en première ligne sur l'APS et l'Advantix et a vraiment été rangé dans la catégorie de voilà, la photo d'avant. J'ai vu des innovations absolument incroyables chez Kodak. Il y en a qu'on utilise encore tous les jours. L'écran OLED, qui est l'écran de haute qualité, au-delà même de l'écran LED, qu'on voit sur plein d'appareils photo notamment et sur d'autres choses, c'est une innovation brevetée Kodak. À un moment, innover est important, mais si commercialement, on continue à faire porter toute l'emphase et les budgets sur ce qui rapporte de l'argent plutôt que ce qui va rapporter de l'argent,
Oui.
on est mort. Kodak est très exactement un exemple de ça et j'ai une mauvaise nouvelle, c'est que je le vois tous les jours chez plein d'acteurs aujourd'hui.
Oui.
Alors sur l'électronique grand public, c'est un peu un mode de vie parce que les cycles de produits sont tellement courts qu'ils sont
Oui.
obligés de retenir les innovations,
C'est sûr.
sinon tout serait mort d'emblée avant même que ça arrive en magasin. Donc on comprend qu'il faut mettre du sens dans tout ça. Mais quand même, il y a un vrai enjeu à arrêter de mettre de l'argent sur ce qui rapporte de l'argent aujourd'hui et mettre de l'emphase sur ce qui rapportera de l'argent demain. Ça manque cruellement.
Alors, sans citer ceux où ça se passe mal, est-ce que tu as en tête des exemples de virages qui te paraissent les bons?
Ah, alors tu me poses la question sur là où ça se passe bien, plutôt que regarder là où ça se passe mal. C'est intéressant. Et en plus, c'est doublement intéressant parce qu'on regarde toujours là où ça se passe mal. C'est comme les journalistes, le train
Oui,
qui
bien
n'arrive
sûr.
pas à l'heure, tout ça, c'est plus intéressant que celui qui arrive à l'heure. Ok, qui est dans une bonne révolution? Laisse-moi réfléchir.
Oui, pas évident sur la terre
Non,
parce que.
c'est pas évident parce que des acteurs qui viennent. Kodak avait quand même la particularité d'être sur d'abord plein de marchés, pas que la photo, mais le cinéma également. Enfin, tous les marchés qui ont été balayés par le digital, Kodak était dessus. Donc c'était quand même voilà particulier. Et c'est une boîte qui a été créée maintenant il y a 100, je sais pas combien, 100 ans, quelque chose comme
Ouais,
ça,
plus de 100 ans.
plus de 100 ans. Ouais. Et du coup, des boîtes aussi historiques qui ont été sur des marchés qui ont été autant chahutés et qui auraient réussi la bonne révolution. J'en ai pas immédiatement qui me viennent, mais t'as une idée en tête,
Non,
toi?
en fait, ce que j'ai, la question, en fait, est un peu cruelle, mais peut-être il n'y en a pas tellement. Car le problème, c'est qu'on voit beaucoup plus les nouveaux entrants qui frappent fort dans la téléphonie, dans le commerce en ligne, ou bien des petites marques qui sont un peu niches. Je prends un qui se prête Michel Augustin, où ils sont arrivés avec un peu l'état d'esprit déjà dans l'ADN, que ce soit par les fondateurs et encore dans l'entreprise. Pour ceux qui sont nés avant, la capacité de faire cette transformation, il n'y en a pas beaucoup. Je pourrais en dire un, sans pour autant dire que c'est un grand succès, mais IBM, c'est quand même, ils ont fait un virage incroyable, ce qu'on appelle en anglais un pivot, où ils ont fait un pivot d'un business model à un autre. En prenant en compte le virage, je vais dire, si on se regarde derrière, toutes les autres boîtes de conseil sont en train d'essayer de faire la même chose. Ils restent dans le conseil, mais là, c'est orientation expertise dans le digital. Les agences, par ailleurs, ils sont en train de dire, voilà, on était traditionnellement sur une autre forme, maintenant on vient de digital. Mais voilà, c'est une question un peu difficile. Je ne, si tu as d'autres, tu peux, t'es bienvenu.
Alors, ceci dit, je suis content que tu aies cité IBM, parce qu'il se trouve que c'est quand même un client de Guilvy et que cette stratégie Smarter Planet qui est absolument brillante, tu peux le dire, parce que j'y suis absolument pour rien, effectivement, est un bon exemple, mais alors, c'est plus qu'un retournement chez IBM, parce que quand même, on part d'une marque très perçue pour des produits grand public, hardware, qui est aujourd'hui une entreprise, voilà, dans le conseil en B2B et qui garde une vraie longueur d'avance dans la vision, dans la façon dont le digital doit, voilà, s'organiser. Tout ça est très bien piloté par Johnny Iwata, qui est directeur marketing et qui fait un boulot incroyable. Donc oui, c'est un bon exemple, mais alors pour le coup, ouais, c'est un retournement qui est une évolution du business qui va au-delà même du digital. C'est-à-dire qu'ils ont changé leur organisation. Mais c'est vrai, j'aurais dû y penser.
Non, mais ça tombe bien que c'est moi qui en parle comme ça. Ouais. Sinon, ça fait toi en train de vanter tes clients. Mais, et puis, il y en a d'autres. Mais le problème que je pourrais, c'est dans ces listes, j'en ai pas ici. En France, c'est ça qui me charrie. Alors, je sais que tu as été à Social Media Week il y a peu de temps, mi-octobre, et on a parlé de l'identité de l'individu dans une entreprise et ce personal branding et cette confrontation entre la marque de l'entreprise et la marque de l'individu au sein de l'entreprise. Tu as un moyen de gérer ton propre identité, tu as 10 000 followers sur Twitter, tu as ton blog qui est super lu. Donc, tu as une identité forte, mais submergée, enfin, ou sous-titrée par PR Land. Donc, ce n'est pas Eric Maillard. Donc, toi, tu as ton approche à toi. Mais face aux autres, quelle consigne est-ce que tu apportes? Parce que tu as un vrai vécu. Et c'est, pour moi, un des grands enjeux de cette transformation digitale. Parce qu'il faut garder les talents, il faut les motiver. Et de l'autre côté, il faut promouvoir son business. Comment on fait? Quelles sont tes consignes?
Alors, la première consigne, elle n'est pas du tout originale. Je suis désolé pour ça, mais elle pourrait répondre à absolument toutes les questions. Il faut avoir un tout petit peu d'objectif. Il faut savoir un tout petit peu ce qu'on veut avant de commencer à se demander la posture qu'on va prendre. Donc, moi, quand je suis arrivé sur les médias sociaux, mon objectif, c'était d'être dans un mode laboratoire, comprendre de l'intérieur comment ça marche. C'était pas du tout d'être dans une promotion personnelle de type personal branding, c'était pas du tout d'avoir un outil force de frappe au service de mes clients, ça n'est pas ça mon objectif. Donc tout ce que j'ai fait répond à ça, voilà, PR Land existe beaucoup plus que Eric Maillard ou Guilvy sur le web. Très clairement, le lien, et je ne facilite pas du tout le lien de l'un à l'autre. Je ne mets jamais ce sujet-là sur la table dans les conversations avec mes clients. Jamais. J'ai certains clients qui me suivent sur Twitter, mais on n'en parle jamais dans une réunion. Ça n'existe pas. Parce que ça répond à mon objectif de comprendre comment ça marche, à me créer une intelligence, une forme d'intelligence sur le sujet de l'intérieur, mais pas du tout d'en faire un bras armé pour quoi que ce soit. Ça peut être un objectif, et pour certains de mes clients d'ailleurs, c'est un objectif qui devienne l'incarnation pour leur entreprise sur les médias sociaux d'un sujet ou d'un autre. Auquel cas, je ne leur ferai pas du tout prendre la posture que j'ai prise moi. Elle sera très différente, leur nom sera mis en avant. On va vraiment utiliser leur nom comme une marque associée à leur entreprise. Et pour ça, il y a plein de moyens de le faire sur les médias sociaux. Donc, le seul conseil qui vaille, c'est ayez un objectif clair quand vous arrivez sur les médias sociaux.
Alors, ça, pour moi, j'entends ça pour l'objectif de l'individu.
Oui.
Moi, je monte un cran et je regarde l'entreprise. Mm-hmm. Moi, je suis DRH et le PDG, on est en train de se parler. Alors, comment est-ce qu'on va orienter notre posture par rapport à les nouveaux entrants, des jeunes qui arrivent avec 5 000 followers déjà, avant d'arriver, et ou quelqu'un qui s'est mis à faire un blog en entreprise à titre personnel, quels sont les arrangements autour de ça pour piloter cette espèce de mur qui est un peu flou?
Alors, il y a des outils qui aident à faire ça. Je parlais d'un acteur de la téléphonie pour lequel on était intervenu il y a 4 ans. C'est le type de question, les RH étaient autour de la table, tu te souviens, je te disais ça tout à l'heure, c'est exactement le type de question qu'on traitait avec des guidelines internes qui consistaient pour les recruteurs, par exemple, dans l'entreprise, à un, se poser les bonnes questions face à cette situation-là, poser à soi-même et poser au candidat les bonnes questions, et donner les règles du jeu. S'il n'y a pas de règles du jeu fixées, concrètement, on peut reprocher à personne de ne pas les jouer, parce qu'elles n'existent pas. Donc, il faut avoir quelques règles par rapport à ça. Est-ce qu'on attend de ses salariés qu'ils participent aux conversations autour de l'entreprise? Est-ce qu'on les encourage à le faire? C'est le cas, tu parlais d'IBM tout à l'heure, c'est vraiment le cas d'IBM. C'est la culture même d'IBM que d'inviter les IBMers à être totalement l'incarnation et d'avoir une libre parole absolue sur les réseaux sociaux. D'autres entreprises ne vont pas du tout être dans cette posture-là. Et là, oui, ça devient plus compliqué. J'ai encore souvent des conversations sur des gens avec des dirigeants qui me disent « Moi, le problème, c'est que là, j'ai embauché quelqu'un à la communication. Il arrive avec toute sa communauté. Mais quand il fait des choses, est-ce que c'est pour lui ou est-ce que c'est pour ma marque ?» Ce qui est une question des années 80. Alors, je ne lui dis pas comme ça. Comme je n'ai pas donné de nom, je peux y aller. Mais c'est une question des années 80. On peut plus la poser comme ça. Et si on la pose à quelqu'un de la génération Y ou plus jeune encore, il ne comprend même pas qu'on puisse poser cette question. Donc il faut, oui, un peu de modernité, des règles du jeu clairement établies, et finalement ne pas s'inquiéter de est-ce que la communauté d'une personne est à ma disposition pour longtemps ou pas, et qu'est-ce que ça va devenir. Il faut, c'est carpe diem, quoi. C'est profiter du temps présent avec une communauté qui est mise à sa disposition. Je ne sais pas, on travaille, le groupe travaille pour Ford, moi je ne travaille pas en France, mais pour Ford... dans le monde, et on gère ici en France la publicité seulement. Il y a quelqu'un qui s'appelle Scott Monty chez Ford. Évidemment qu'il a une communauté de dingue, et c'est de l'incarnation. Donc cette communauté, le jour où Scott partira de Ford, elle suivra Scott. Oui. Et qu'est-ce qui restera chez Ford? Sans doute une plus-value qui n'aurait jamais existé si Ford n'avait été pas là, mais une perte aussi liée à son départ. Oui, il faut accepter cette règle du jeu-là, parce qu'il aura de toute façon participé à la révolution de Ford dans les médias sociaux, qui inventent tous les jours des choses. Donc c'est du bénéfice qu'il faut prendre sur le moment, et pas se projeter sur des questions qui sont assez peu utiles finalement.
Oui, alors, ton mot carpe diem, en fait, c'est en anglais, on dit leap of faith. Donc, c'est un peu, je ferme les yeux et j'accepte. Et cette croyance, cette délégation libre a une telle bon côté, avec par évidemment des défauts et des possibilités négatives, mais qui doit être beaucoup plus positif au total que le négatif qui est en face. Mais on a tendance à regarder le petit négatif qui fait peur à tout le monde. Pour revenir pour boucler la conversation, tu parlais de donc RP, c'est pour être en contact avec les influenceurs. Alors aujourd'hui, il existe des systèmes de mesure d'influence. Qu'en penses-tu de Cred, Clout, Pure Index et Empire Avenue et Quanti, Tutti Quanti?
En fait, il y a un problème pour tous ces outils, mais il faut trouver des standardisations. Donc, c'est bien, dès qu'il arrive des standards qui touchent au RP, je suis plutôt content. Donc, Cloud, tout le monde s'en moque allègrement, mais allez, disons que c'est un modèle de standard possible et pourquoi pas. Il y a une chose qui rend tout ce qui touche à l'influence très compliqué à mesurer. C'est que l'influence est relative. Elle est relative au sujet dont on parle. Je suis influent sur les séries télé, je ne suis absolument pas influent sur la cuisine. Parce que je suis un piètre cuisinier et que sur les séries télé...
Tu ne peux pas être pire que moi.
Donc voilà, mais mon influence est très relative, l'influence d'une marque est très relative, ton influence est très relative, tout est relatif. Donc mon chiffre ou ton chiffre Clout, je m'en contrefiche quand il s'agit de s'interroger sur de l'activation d'une communauté autour de la gastronomie, pour rester sur ce sujet-là. Il m'arrive d'être sollicité sur un sujet gastronomique parce que, sans doute, cette semaine-là, mon clout est relativement élevé pour une raison indéterminée, ce qui est une stupidité absolue. Je n'ai aucune influence sur ce sujet. Donc, les standardisations, oui, parce que ça fait plaisir dans un modèle marketing un peu ancestral, mais en vrai, on est obligé de faire un peu plus de couture que ça et d'aller dans le vrai croisement entre la communauté d'intérêt qui va servir le sujet dont je suis en train de parler.
Et moi, je te suis entièrement, et j'ai envie de dire que quand on regarde ce qui se passe dans les évolutions de ces services, ils sont en train de faire ça justement, que ce soit appelé community ou métier, ils sont en train d'essayer d'orienter le score. Et je pense que, comme toi, c'est important, ça existe, ça a le mérite d'exister. Ça permet pour les ancestraux, comme tu disais, de s'accrocher à quelque chose. Mais le raffinement, c'est une fois qu'ils ont compris ça, c'est de les amener à comprendre que c'est pas le cloud score au total, mais le cloud score embedded dans une communauté ou dans un intérêt, une passion. Et c'est là où tu peux avoir un meilleur rôle en termes de RP.
Oui, et puis absolument, et sur des choses qui sont parfois inattendues, ça peut être lié à des passions ou des vrais sujets d'expertise des gens. Voilà, ils connaissent le sujet, ils sont respectés pour ça, ils sont légitimes. Et puis ça peut être voilà des gens qui prennent un espace vide tout d'un coup. Voilà, il y avait personne sur le créneau. Je me souviens, j'ai écrit il y a 4 ans un papier sur le Club Med. Voilà, je suis allé au Club Med, j'ai écrit un papier sur ce club en particulier. Ça a été pendant 3 ans le sujet le plus lu sur mon blog tous les jours et qui générait des commentaires et des questions. Il y en a encore aujourd'hui. Je suis devenu, avec un papier, un influenceur clé du Club Med sur la sphère française.
Et Clobel s'en est rendu compte?
Alors, c'était il y a 4 ans, donc il y a eu plusieurs organisations différentes. Donc, il y a eu des périodes, oui, où effectivement, ils m'ont mis dans la boucle de différentes choses. Puis, objectivement, moi, je me réveille pas tous les matins en m'interrogeant sur le Club Med. Voilà, mais ils m'ont invité à plusieurs choses sur l'ouverture d'un nouveau club, notamment. Donc, c'est pas passé complètement entre les mailles du filet, mais ils n'ont pas du tout réalisé. Et encore une fois, ça n'a aucune importance, mais ils n'ont pas du tout réalisé que pendant, allez, au moins quelques mois, je suis devenu une des personnes les plus influentes pour leur image, parce que quand on tapait Club Med sur Google, c'était moi qui sortais de loin. Voilà, pour plein de raisons, liées à un algorithme, aux mots utilisés sans faire exprès. Enfin, voilà. Et c'est vraiment malgré moi, parce qu'encore une fois, j'ai aucun intérêt, parce que je m'en fous, quoi. Mais nous, notre boulot en RP, c'est de l'identifier, ça. Et c'est peut-être
C'est ça,
d'aller chercher des gens
exactement.
qui n'ont même pas conscience qu'ils sont influents sur un sujet.
Exact.
Donc ça nécessite un petit peu de doigté, d'approche, des gens qui vont pas comprendre pourquoi on vient les chercher. Quand je travaille pour UGC et que sur les films on est vraiment sur ces approches de communauté d'intérêt, je me souviens on a travaillé sur un film qui intégrait la musique baroque, et donc on va chercher la communauté musique baroque. Il faut un tout petit peu de sens de l'explication, l'approche un peu en douceur pour expliquer à des gens pourquoi, alors que c'est pas le cinéma leur passion, mais qu'ils ont des activités en musique baroque et qu'ils sont influents, qu'ils ne le savent même pas, pourquoi on va venir les chercher pour devenir ambassadeur d'un sujet. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres métiers que les RP qui sachent empoigner cette espèce de longue route pleine de susceptibilités, de détours pour embarquer des gens qui vont pas d'emblée comprendre pourquoi, qui risquent d'avoir le sentiment de se faire un peu manipuler, alors qu'on n'essaie jamais de les manipuler, on essaie de les emmener avec nous parce qu'ils en ont envie. Et voilà, et je pense que c'est en ça que c'est vraiment important d'être dans la compréhension des communautés, de l'influence des gens, parfois malgré eux, et puis de la façon de les embarquer élégamment et avec leur consentement.
Ça me fait penser à un rôle d'investigation. Alors, donc, Eric, un plaisir d'avoir t'avoir sur le show. Je te remercie beaucoup. Et comment est-ce que quelqu'un peut te suivre, te contacter s'il a envie de poursuivre la conversation?
Alors, s'il a envie de beaucoup de choses tous les jours, avec des live tweets, presque trop, il y a Twitter, PRLand, mais là, il faut être un peu... Il y a parfois des choses intéressantes, il y a parfois des choses très légères, ça rentre tout à fait dans cet anti-personal branding dont je parlais tout à l'heure, parce que je ne suis pas sûr qu'un client qui soit là aurait vraiment envie de travailler avec moi, mais je m'y amuse bien. Sur les choses un tout petit peu plus intéressantes, j'espère, il y a le blog sur lequel il m'arrive encore d'écrire sur des sujets professionnels, donc PRLand.net. J'écris sur les séries, sur le plus du Nouvel Ops. Voilà, ça fait 3 endroits un peu
Et
plus.
puis, pour le boulot, un moyen de contacter?
Alors, sur le boulot, il y a un blog dont je suis très fier parce que depuis 3 ans, j'ai donné les clés à toute l'équipe qui a la possibilité de publier sur le blog ogilvy-pr.fr. Ils ont vraiment les clés, je ne valide pas. Ils connaissent les règles du jeu qui, évidemment, on fait un peu attention à pas impliquer nos clients pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Mais au-delà de ça, c'est carte blanche. Et donc, c'est pas un blog où j'écris une ou deux fois, mais c'est mes équipes, j'en suis super fier. Et donc, allez plutôt, s'il y a une chose à aller voir, tout ce que j'ai insisté, c'est plutôt le blog de Ogilvy Pierre. Ouais.
Eric, je te remercie beaucoup.
Merci à toi.
Alors, merci de nous avoir rejoints pour cette émission de Minter Dialogue en français. Vous trouverez les channels sur minterdial.fr. Vous pouvez également vous souscrire à mon show Minter Dialogue en français sur iTunes, où vous trouverez d'autres émissions dans cette série d'entretiens d'hommes et de femmes de l'Internet en France, dont des personnages comme Cédric Giorgi de TechCrunch, Vincent Ducret, conseiller Internet au gouvernement, Jacques Lorme de Leroy Merlin, ou encore Anne-Sophie Baldry, désormais chez Facebook. Sinon, vous pouvez me retrouver sur mon site anglophone, themindset.com, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T, où la marque se rend personnelle, où j'écris sur les enjeux des marques et le marketing digital. Vous pouvez également souscrire à mon newsletter anglophone sur The Mindset, ou bien me suivre sur Twitter, @MDIAL. Faites du podcasting, c'est une nouvelle forme de consommation de médias. C'est pratique, c'est mobile. S'il vous plaît, partagez ou tweetez si cette émission vous a plu. Bonne continuation, où que vous soyez.
You've got questions, we've got answers. Business leadership, ownership, and sales can be challenging. Tune into the Accelerate Your Business Growth podcast to learn from the world's experts. Join me, your host, Diane Helbig, as I chat with people who have expertise in various areas of business. You'll enjoy the lively conversations that are focused on providing you with the ideas, tips, and suggestions you need to realize greater success. Get what you need for your business when you need it from the people who have the answers. Accelerate Your Business Growth is part of the Evergreen Podcast Network and is available on Apple, Spotify, or wherever you listen to your favorite podcasts.